Je suis Caroline Trottier-Gascon, je suis porte-parole pour Fierté Trans, Euphorie dans le genre, qui organise la marche trans. Et je suis aussi porte-parole du groupe d'action trans de l'Université de Montréal. Fierté Trans, Euphorie dans le genre est un collectif d'activistes trans qui viennent de milieux très différents. On a des personnes racisées, des personnes neurodiverses ou avec des handicaps. On organise cette on s'est rassemblés l'an dernier parce qu'on voulait, en gros, organiser quelque chose sur les enjeux trans autour de la période de la fierté. On a voulu répéter l'expérience cette année. On a aussi organisé d'autres événements l'an dernier, surtout des manifestations pour les droits des personnes trans.
Donc, vous avez un peu touché sur ce sujet, mais pourquoi exactement vous avez organisé cet événement et est-ce que c'est récurrent?
Oui, c'est la deuxième année qu'on organise la marche trans. On l'organise notamment pour avoir un moment de visibilité pour les enjeux trans et les choses qui touchent les personnes trans au Québec en ce moment. Ce qu'on veut mettre en évidence l'an dernier et ce qu'on veut mettre encore en évidence cette année, c'est le fait que l'égalité juridique pour les personnes LGBT n'est pas atteinte et que les droits trans sont encore... On a encore des luttes à faire à propos des droits trans.
Mm-hmm. Pouvez-vous parler un peu des obstacles que les personnes trans fassent et plus précisément de l'inégalité juridique qu'elles subissent toujours au Québec, précisément?
En ce moment, l'inégalité vient surtout de l'article 71 du Code civil du Québec qui régit le changement de mention de sexe. Donc, c'est ce qui permet aux personnes trans d'avoir une identité qui correspond à... avoir un marqueur de genre sur leur document officiel qui correspond à leur identité ou non. En l'occurrence, surtout non. En ce moment, pour avoir accès à cette procédure-là, il faut être une personne majeure. Pour la citoyenneté canadienne, il faut avoir plus de 18 ans. Il faut avoir subi des chirurgies aux organes génitaux qui causent généralement la stérilisation permanente. C'est ça. En ce moment, donc, toutes les personnes qui ne respectent pas ce profil très spécifique et très restreint ou qui ne peuvent pas le respecter pour toutes sortes de raisons n'ont pas une reconnaissance juridique de leur identité. C'est aussi le cas pour... il y a d'autres personnes qui sont touchées par d'autres aspects, comme par exemple les parents trans. C'est absolument impossible d'avoir le bon rôle parental sur le certificat de naissance de leur enfant. Sauf dans des cas très particuliers, on ne peut pas changer ça. Donc, des parents qui sont... des mères qui sont pères sur le certificat de naissance de leur enfant ou l'inverse. Aussi, les personnes non-binaires, aucune façon d'exprimer leur identité dans les documents en ce moment.
OK. Mais il y a eu la loi 35 qui avait passé. Est-ce que vous pouvez parler un peu de cette loi et si ça a fonctionné, en fait, au Québec?
Si ça a fonctionné. En ce moment, ce qu'il faut dire sur le projet de loi 35, c'est que c'est un projet de loi qui a été adopté le 6 décembre 2013. Donc, ça fait 19 mois maintenant. Ça devait retirer les exigences de chirurgie. Donc, retirer la nécessité pour les personnes trans d'avoir subi des stérilisations permanentes. Ça aurait été une bonne chose si c'était appliqué, ça ne l'est toujours pas. Ça fait 19 mois, comme je l'ai dit, qu'on attend. Il y a du mouvement, il y a du bruit, des choses qui bougent, mais au final, les vies des personnes trans n'ont pas changé pour le mieux depuis que le projet de loi a été adopté parce que cette partie de la loi n'est toujours pas appliquée. Le retrait des chirurgies, c'est pas appliqué. Donc, c'est ça. Ce que les personnes trans vivent en ce moment, c'est surtout de l'insécurité parce qu'on attend. Donc, les gens pensent leur projet de vie, leur projet de transition en fonction de l'éventuelle fin de cette discrimination-là depuis plus d'un an et demi, mais ça ne vient pas. Donc, semaine après semaine, quand on voit que rien ne bouge, les personnes trans sont trahies continuellement par le gouvernement qui refuse de reconnaître leurs droits.
Et avant, vous avez touché au sujet des parents, des personnes qui ne s'identifient pas avec une identité non-binaire. Et aussi, vous avez touché sur les personnes migrantes sur mm-hmm. votre page Facebook. Est-ce que vous pouvez parler des obstacles particuliers que mm-hmm. chaque groupe fasse s'il s'identifie mm-hmm. comme oui. trans?
Donc, il y a, même si on réussit à amener à bien tout ce qui tourne au projet de loi 35, et on a l'espoir que ça va déboucher. Il y avait une commission parlementaire au printemps qui est allée dans des bonnes directions, mais depuis, on n'a pas de nouvelles, on n'a pas été consulté depuis. Il n'y a toujours pas de projet de règlement pour appliquer depuis. Donc, on est toujours au même endroit. Donc, même si ça s'était mené à bien, il y aurait 4 groupes qui seraient pas reconnus. Donc, comme vous l'avez dit, parents trans, les personnes non binaires, les personnes migrantes et les enfants trans aussi, les personnes mm. mineures. Pour les personnes mineures et pour les personnes migrantes qui n'ont pas la citoyenneté, c'est le même problème légal, c'est-à-dire l'article 71 demande la citoyenneté et demande la majorité. Donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est la possibilité pour les personnes, pour les résidents et résidentes permanentes et pour les personnes mineures d'avoir accès aux procédures. Donc, par exemple, pour les personnes mineures, on s'aligne avec ce que veut Enfants Transgenres Canada pour que, en haut de 14 ans, on puisse, sans restriction, comme pour les personnes majeures, avoir accès à la procédure, et en bas de 14 ans, avec le soutien des parents. Pour les personnes migrantes, résidents permanents. Oui. Des personnes qui vivent ici et qui ont besoin de ce changement-là, dans le cas des personnes migrantes, qui ont besoin de ça pour s'adapter à la société ici et donc pour avoir accès à la citoyenneté. Et là, c'est un cercle vicieux. Si tu n'as pas la bonne identité de genre sur tes documents, tu es victime de discrimination, tu ne peux pas t'adapter, tu ne peux pas accéder à la citoyenneté. Si tu n'as pas la citoyenneté, tu ne peux pas accéder mm-hmm. au changement de mention de sexe. Donc, c'est des personnes qui sont extrêmement marginalisées, souvent des personnes racisées aussi. Donc, qu'on fait est vraiment très dangereux pour les personnes les plus marginalisées des communautés trans en ce moment. Pour les personnes mineures, même chose, on ne peut pas changer en bas de 18 ans. Et c'est un moment où les personnes trans sont souvent extrêmement vulnérables, à la merci des administrations des écoles, si elles vont à l'école. Peu de liberté, souvent, dépendent très fort de leurs parents. Nous, ce qu'on veut, c'est leur donner un peu plus de liberté dans leur vie et d'autonomie sur leur vie en leur permettant d'accéder à ce changement-là. Le fait qu'on puisse pas avoir que les parents trans ne puissent pas avoir le bon rôle parental, alors, en ce moment, c'est soit homme, soit femme, ce qui touche aussi à propos des personnes non-binaires parce que obligé d'être l'un ou l'autre. Soit mère, soit père. Mm. Impossible d'être juste parent. Et c'est impossible à changer. Donc, même une personne qui a obtenu un changement de mention de sexe par ailleurs ne pourrait pas changer son rôle parental sur le certificat de naissance de son enfant. Ce qui signifie qu'à chaque fois que les parents ont besoin de montrer le certificat de naissance de leur enfant, par exemple pour aller à l'école ou tout quoi que ce soit, leur vie privée est révélée au grand jour parce qu'on va avoir leur ancienne identité qui va transparaître, ce qui crée des situations de discrimination. Aussi pour l'enfant, qui n'a pas besoin d'avoir cette pression-là en plus. Pour les personnes non-binaires, en ce moment, il n'y a aucune façon pour les personnes non-binaires d'exprimer leur identité, leur rapport au genre, dans toute sa complexité, dans toute sa fluidité. Parce que tout le monde doit avoir obligatoirement soit une mention homme, soit une mention femme. Tout ce qu'on pourrait faire pour ça, c'est permettre de n'avoir aucune mention de sexe, ce qui permettrait aux personnes non-binaires de revendiquer pour elles-mêmes et d'être visibles si elles désirent l'être, plutôt que de les forcer à l'invisibilité et les forcer à faire des coming out constants s'ils veulent que leur identité soit respectée.
Est-ce que ces obstacles sont vraiment particuliers au Québec ou on retrouve ça vraiment partout au Canada? Et pour mm-hmm. sauter à la prochaine question, est-ce que vous visez à faire ce mouvement partout au Canada aussi?
Y a des obstacles comparables et des mouvements comparables ailleurs au Canada. Et ça va souvent dans les bonnes directions. Je sais que en Ontario récemment, on a retiré l'exigence de chirurgie et retiré aussi... ils permettent aux personnes mineures d'obtenir le changement de son sexe. Par contre, il y a d'autres problèmes dans d'autres législations ailleurs, comme des choses qu'on a essayé de ne pas avoir dans notre propre processus, comme l'obligation d'avoir l'approbation d'un médecin, des choses comme ça. Nous, on veut plus se modeler sur ce qui se fait en Argentine et ce qui se fait à Malte, ou est-ce que c'est vraiment juste une déclaration sous serment de la personne trans qui demande un changement de mention de sexe, et ça finit là. Malte est vraiment, en ce moment, à l'avant-garde pour les droits trans, aussi pour les droits des personnes intersexes, parce que Malte a aussi, dans la même loi que pour les personnes trans, rendu illégales les mutilations génitales sur les enfants intersexes. Donc, c'est vraiment plus sur Malte qu'on essaie de se calquer dans nos revendications. À propos des changements juridiques, c'est plus un enjeu qui se fait au niveau des provinces. On agit en solidarité avec les activistes ailleurs au Canada, comme je sais qu'il y a eu du mouvement récemment en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve. C'est quelque chose qui bouge en ce moment ici, ailleurs dans le monde. C'est un moment important pour les droits trans. Ce dont on a besoin, c'est que ça se fasse et d'une vraie reconnaissance plutôt que à des promesses brisées continuellement, ce qu'on a en ce moment au Québec. Non, c'est un type d'activisme qui se fait vraiment au niveau provincial parce que les lois sont au niveau provincial.
Et on a touché vraiment sur l'inégalité juridique, mais oui. Vous célébrez aussi l'identité trans pendant cette marche. Donc, pouvez-vous parler un peu du côté positif aussi de votre marche?
J'ai plus préparé.
Ah, OK!
Je pense qu'on a un mouvement trans extrêmement vivant et extrêmement actif avec un grand nombre d'organismes communautaires vraiment extraordinaires. Je pense qu'on a près d'une vingtaine d'organismes qui endossent la marche, soit des organismes trans ou alliés. On a de quoi être fiers de notre mouvement au Québec. On a réussi, même si le projet de loi 35 n'est pas terminé, on a réussi à faire un moment extraordinaire d'éducation auprès des politiciens en commission parlementaire. Il y a quelque chose qui se passe ici au Québec. Il y a plein d'activistes vraiment extraordinaires, des auteurs, des artistes trans qui vivent ici, qui font connaître nos communautés. Par exemple, l'an dernier, il y avait Sophie Labelle qui participait un peu à la marche qu'elle avait aidé à organiser cette année. Elle fait des tournées à travers le monde avec sa BD. Dans l'année, il y a aussi eu... L'an dernier, il y avait Yana Book qui avait pris beaucoup de photos à la marche trans, qui a organisé cette année la première exposition mondiale avec juste des artistes trans et des œuvres d'artistes trans à Montréal. Donc, on a vraiment quelque chose d'extraordinaire, un moment impressionnant. Et je pense qu'on a de raison d'être fiers de ce qui se passe dans nos communautés à Montréal et au Québec sur les enjeux trans. Faut juste essayer de capitaliser tout ce dynamisme et de le transmettre dans des changements qui vont affecter les vies des personnes les plus marginalisées et des personnes qui souffrent en ce moment dans nos communautés, en grande partie à cause du gouvernement.
Et votre marche va prendre place demain, mais s'il y a des lecteurs qui ne sont pas capables d'assister à votre marche, comment peuvent-ils s'impliquer dans ces enjeux trans et...
Si vous ne pouvez pas venir à la marche, il y aura aussi... Je me souviens plus du jour. C'est le 12. le 12, il y aura aussi un événement à l'Hôtel des gouverneurs à la place du Puy sur l'après-projet de loi 35, donc sur les oubliés du projet de loi 35. Donc, parents trans, personnes non binaires, personnes migrantes, personnes mineures. Donc, ça devrait être vraiment très intéressant et très positif. Donc, je vous invite à venir. Sinon, agir en solidarité avec les organismes des communautés trans partager la bonne nouvelle.
Ben, merci beaucoup.
Merci.
Et espérons qu'il n'y ait plus d'inégalité trans au Québec et que le projet de la loi 35 se fasse appliquer enfin. Tu sais, ça fait 19 mois, donc.
Plus d'un an et demi. on a fait la marche sur le même sujet l'an dernier, avec l'espoir de ne pas devoir refaire la même chose. On est extrêmement déçus de devoir sortir les vieilles cassettes.
Oui.
Parce que c'est vraiment une trahison de la part de notre gouvernement qui devrait être à nos côtés dans nos vies et qui décide que non.